Ça faisait 38 ans que le pauvre paralytique était paralysé. Et si dans l'évangile on précise 38 ans, ce qui est la parole du Seigneur, c'est que ça a une importance. Et 38 ans correspond à un épisode raconté dans le Deutéronome, où Moïse raconte l'épopée de la sortie d'Égypte et du passage dans le désert, surtout le passage dans le désert. Et à un moment donné, dès le début du Deutéronome, de premier, deuxième chapitre, troisième peut-être, mais je crois que c'est le deuxième, Moïse rapporte les paroles du Seigneur. Et il dit qu'aucun homme de cette génération en âge de porter les armes ne verra la terre promise, hormis Jésus, fils de Navé, Josué. Et toi non plus, dit-il à Moïse, c'est là que Moïse a appris qu'il ne parviendrait pas à terre promise. Et faisant allusion à ça, un chapitre plus loin, Moïse dit, voilà ce que le Seigneur nous avait dit, qu'aucun homme en âge ne franchirait le Jourdain pour aller en terre promise. Et seul Jésus, fils de Navé, ferait passer le peuple de l'autre côté. Et voilà que dans cet épisode, un homme, et Moïse ajoute, c'est ainsi que nous sommes restés 38 ans à pérégriner entre Kadesh Barnea et l'entrée du Jourdain, l'entrée de la promise. 38 ans. Et 38 ans correspondent effectivement à la période de maladie du paralytique. Qui n'a pas franchi les eaux, entendez du baptême cette fois-ci, grâce à l'activité de l'ange qui devait faire bouillonner l'eau, et uniquement par Jésus, non pas fils de Navé, mais fils de Marie. Et quand dans l'évangile, le paralytique dit: Mais je n'ai pas d'homme pour me plonger dans la piscine probatique, mais avant que quand l'eau a bouillonné, il y en a toujours un plus rapide que moi qui plonge le premier et qui est guéri. J'ai un trou.
C'est pas un homme qui l'a.
Oui, merci. Il dit: Je n'ai pas d'homme. Ce n'est pas, j'ai pas un garçon, j'ai pas de serviteur, j'ai pas ça, je n'ai pas l'homme. C'est-à-dire, l'homme, on l'attendait encore. Et l'homme, c'est le Christ qui est l'homme en plénitude. Donc, quand il dit je n'ai pas d'homme, il y a une prophétie en quelque sorte. Et l'homme, le voilà maintenant devant lui. Et c'est lui qui lui donne la vie. Et cet épisode de la du de ce paralytique-là, cet épisode de guérison du paralytique est souvent confondu avec deux autres épisodes, même par des pères de l'Église, même par beaucoup de commentateurs. Ils sont confondus d'une part avec la guérison du paralytique auquel faisait allusion Marylis, qui était descendue auprès du Christ dans son grabat à travers les tuiles du toit. Là, il y a aussi, c'est aussi une figure du baptême, mais confondu aussi avec la guérison de l'aveugle qui va se plonger dans la piscine se laver les yeux dans la piscine de Siloé après que le Christ lui enduit les yeux d'un mélange de salive et de terre. Et ces trois épisodes-là sont souvent confondus, mais tous les trois ont cette allusion, son figure du baptême, c'est évidemment dans la plongée de l'eau qui nous. Mais dans le cadre d'aujourd'hui, on peut dire, on voit que ce n'est même pas l'eau du baptême elle-même, c'est le Christ lui-même qui est guéri. Et ces épisodes des évangiles qui nous sont lus après Pâques sont la continuité, sont la continuité des catéchèses qui étaient données pendant tout le carême et qui sont à l'origine des fameuses lectures du samedi saint, qui sont une catéchèse biblique sur la signification du baptême, de ce que vont recevoir ce soir même, cette nuit même, les catéchumènes, qui correspondent aussi d'ailleurs aux grandes lectures, aux lectures bibliques des grandes fêtes, qui sont aussi des catéchèses bibliques annonçant le baptême. Et là, c'est après avoir été baptisé, la catéchèse se continue, et on nous dit quelles sont les conséquences du baptême. Et dans le « Prends ton grabat et marche », c'est pas, quand on lit l'Évangile, c'est pas, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a le niveau purement historique, si je peux l'appeler comme ça, du miracle, en l'occurrence de guérison. Mais la manière dont le Christ a réalisé ces événements-là et la manière dont les apôtres qui avaient été enseignés par le Christ sur la compréhension des Saintes Écritures et sur la signification des paroles, des gestes, des actes du Christ, fort de toute cette lumière-là, ils ont raconté dans leurs évangiles, avec le vocabulaire pris souvent de la bouche même du Christ, mais qu'ils ont arrangé chacun à leur manière, c'est une manifestation d'une révélation d'un sens caché en quelque sorte des Écritures. Et là, non seulement on voit le miracle que l'homme qui se présente devant le paralytique, donc Jésus, a toute la puissance divine pour accomplir de tels miracles. Mais on voit aussi que le fait qu'il prenne la place le fait que c'est lui qui opère le miracle et non pas l'eau, si vous voulez, montre toute sa puissance personnelle. Et comme dans le miracle de l'autre paralytique, où c'est encore plus net, on voit ce qu'est la kénose du Christ. Souvent, je vous demande si je n'ai pas évoqué ça déjà dimanche dernier ou il y a 15 jours, ça, souvent on envisage la kénose du Christ comme un renoncement du Verbe de Dieu à sa condition divine pour se faire homme comme tous les hommes. Donc ce serait son incarnation qui serait sa kénose. Alors que la kénose du Christ va beaucoup plus loin que ça. Bien sûr, il y a ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que le Christ a toujours été et Dieu et homme. Toujours, sa nature humaine a été illuminée, glorifiée, transfigurée par sa nature divine. Mais il avait cette faculté, cette volonté de faire taire sa gloire divine pour se manifester en tant qu'homme. Et là, dans le cas du second paralytique, celui passé à travers le toit, on voit toute une ambiguïté. C'est-à-dire qu'à certains moments, on voit que le Christ se manifeste comme un homme, il parle comme un homme, et à un autre moment, il agit comme Dieu, en même temps, si vous voulez. Il non seulement il guérit ce paralytique, mais même il lui remet ses péchés. La guérison, tout homme peut faire des guérisons. Donc, c'est un homme. Il se présente homme. Mais en pardonnant les péchés, il se présente comme Dieu. Donc, il y a deux facultés. La faculté de... Et sa kénose consiste justement à pouvoir taire sa gloire divine quand il le veut, ou de la faire surgir, au contraire, quand il le veut.
Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette piscine, c'était le lieu où on lavait les brebis avant les sacrifices? Est-ce qu'il y a un rapport entre ça et puis le fait que ce soit là que les gens étaient guéris?
Oui, en ce sens que à cette piscine-là s'appelle la piscine des brebis, c'est-à-dire la piscine de ceux qui vont être immolés, des sacrifices, des holocaustes. Or, elle porte le nom du Christ. Le Christ est le véritable holocauste. Donc c'est le Christ qui est la véritable brebis. Comme la piscine de Siloé, pour la guérison de l'aveugle, où le Christ dira à l'aveugle, après lui avoir enduit les yeux debout avec sa salive, il dit, va te laver à la piscine de Siloé. Or, Siloé veut dire l'envoyé. Et l'envoyé, c'est le Christ qui est l'envoyé de Dieu. Et avec une subtilité supplémentaire, que l'envoyé Angelos, c'est aussi l'envoyé, le même envoyé, qui se trouve dans la piscine, qui dans la piscine des brebis, qui vient faire bouillonner l'eau. Dans les évangiles, il faut toujours chercher de ne pas voir simplement le phénomène historique nous prouvant qui est Jésus. Pas simplement l'aspect moral non plus, qu'il faut croire, qu'il faut se laisser perfectionner, etc. Toute chose vraie, évidemment. Mais voir que les Saintes Écritures sont une révélation de qui est Dieu. Il se pose la question, qui est Dieu? Qui est celui qui se présente là? Qui est celui qui parle? Comment il se manifeste?
Est-ce que les évangélistes écrivaient avec les détails, ces détails-là et pas d'autres détails? C'est parce qu'ils étaient inspirés par l'Esprit Saint, ou c'est parce qu'eux, ils avaient aussi... ils avaient déjà compris certains...
Les deux.
Les deux.
Les deux.
Ouais.
C'est parce que le Christ leur avait... Dans l'évangile de l'orthodoxe ce matin, ouais, on voit que le Christ a expliqué toutes les Écritures. Le Christ a montré à ses disciples tout ce qu'il concernait dans les Écritures. Et le Christ ne leur est pas apparu quelques fois, il leur est apparu souvent, entre le moment de sa résurrection et le moment de son... Et ces explications-là ont illuminé, en quelque sorte, ont illuminé ce qu'ils avaient vu, qu'ils faisaient, qu'ils avaient... Quand ils parlaient, ils ne comprenaient pas, ils n'entendaient que une voix d'homme, si je puis dire, une compréhension d'homme. Et à partir du moment où ils ont reçu l'Esprit Saint, après avoir été catéchisés, oui, si je puis dire, par le Christ, à ce moment-là, les Écritures, qui étaient presque lettres mortes, en quelque sorte, tout d'un coup, ont pris vie, ils sont d'homme. Et eux-mêmes, forts de la présence de l'Esprit, évidemment, ont été amenés à la présenter, à l'expliquer de manière à ce que jusqu'à aujourd'hui ça puisse nous servir de la même manière. Mais je ne dis pas pour autant qu'ils étaient conscients toujours du vocabulaire qu'ils utilisaient. Ils étaient insérés dans une tradition, plusieurs fois millénaires, des écritures, Et ils en étaient pétris, ils les connaissaient, ils les avaient apprises dans les écoles, dans les synagogues. Donc ils les connaissaient, ils s'exprimaient à travers les catégories, à travers les histoires, à travers le vocabulaire véhiculé par toute la tradition depuis tant de siècles. C'est une des preuves de l'authenticité d'ailleurs de nos interprétations d'église, d'interprétations ecclésiales, patristiques, sur la base de l'explication des pères. Parce que la manière dont les pères ont compris les Saintes Écritures, ils ont expliqué à travers les figures, que ce soit Saint Ambroise de Milan, que ce soit Origène, que ce soit Saint Grégoire de Nice, que ce soit tous les pères, jusqu'à aujourd'hui. Ça vient d'une manière dont les Juifs eux-mêmes interprétaient les Écritures déjà dans l'Ancien Testament, où ils voyaient des correspondances dans le vocabulaire, dans les événements. Comment les événements. Un événement récent, actuel, contemporain, pour eux, représenter, remanifester un archétype, remanifester quelque chose qui avait déjà eu lieu dans leur histoire et où Dieu renouvelait leur histoire. Quand ils ont traversé le Jourdain en arrivant en terre promise, ça ne pouvait pas, 40 ans après, ça ne pouvait pas ne pas rappeler la traversée de la mer Rouge. Si bien que toute traversée de rivières, de fleuves, de ruisseaux un peu solennels, tout de suite évoquait la traversée du Jourdain, la traversée de la mer Rouge, la traversée du Jourdain et d'autres.